Le journal vous est présenté par Frédéric Barrère. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal de 19h. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information dans l'actualité ce soir. L'Institut d'études politiques de Grenoble en proie à des tensions. Deux professeurs sont accusés d'islamophobie. Le gouvernement réagit. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, dénonce la vindicte populaire. L'UNEF, qui a relayé les accusations contre les professeurs, affirme son opposition à toute haine. Maxime Debs, dans un instant. La campagne de vaccination s'est accélérée tout le week-end et cela doit continuer. Le gouvernement s'engage à poursuivre le mouvement à Paris, aujourd'hui comme hier. Les Parisiens ont profité du soleil pour une balade sur les quais de Seine.
Prendre l'air, ouais. Pour sortir notre 15 mètres carrés.
Quand vous êtes venu ici, vous êtes dit, il faut faire attention à quoi ?
Éviter la foule et garder son masque.
Il y a du monde.
On va trouver un coin, ouais. Tranquille.
Dans ce journal également, la visite du pape François en Irak et une messe célébrée à Erbil devant des milliers de fidèles. Le procès de Minneapolis aux États-Unis, le procès de Derek Chauvin, le policier qui a tué George Floyd, un homme noir lors de son arrestation, un drame à l'écho mondial. Et puis, une interview qui vaut de l'or, Meghan et Harry, ce soir sur CBS. La chaîne aurait déboursé plusieurs millions de dollars. Vos rendez-vous du 19h, la page sport avec au menu du rugby, du cyclisme avec le Paris Nice, du tennis et le retour de Roger Federer. Et on s'intéressera au Vendée Globe, une épreuve qui marque physiquement les marins. Notre coup d'œil sur l'agenda avec les temps forts de l'actualité à suivre la semaine prochaine et notre rendez-vous incontournable du dimanche 19h avec C'est mon actu, Sandrine Houdin et un témoignage inédit, le témoignage du Père Gérard, le prêtre, lève le secret de la confession. La météo pour demain, soleil et fraîcheur sur la moitié nord, temps pluvieux au sud. Jean-Michel Kolinski à la fin de cette édition. À 19h30, les petits bateaux, Noël Bréham.
Bonjour, je m'appelle Mao, j'ai 7 ans et demi. Je voudrais savoir si les robots peuvent apprendre. Merci.
Les petits bateaux à 19h30 après le journal.
France Inter.
L'Institut d'études politiques de Grenoble est en proie donc à de graves tensions après les accusations d'islamophobie portées contre deux professeurs. Les noms des enseignants ont été placardés sur les murs d'entrée de l'IEP. Une enquête pour injure publique a été ouverte par le procureur de la République de Grenoble. Le gouvernement réagit. Gérald Darmanin dénonce la vindicte populaire. Il faut prendre la mesure de ce qui s'est passé avec l'assassinat ignoble de Samuel Paty, déclare le ministre de l'Intérieur. Bonsoir Samuel, Maxime Debs.
Bonsoir.
L'UNEF, l'Union syndicale des étudiants de France, qui a relayé sur les réseaux sociaux les accusations, réaffirme ce soir son opposition à toute haine, Maxime.
Ouais, alors l'UNEF, sa section locale, a certes dans un premier temps relayé sur Facebook des images de la campagne d'affichage controversée avec le nom dessus des deux enseignants dont on parle, mais la présidente nationale de l'UNEF, Mélanie Luce, veut ce soir à notre micro mettre les choses à plat et dire que le syndicat a très vite réagi.
C'est certain que c'est maladroit, c'est dangereux aussi de mettre des noms sur les réseaux sociaux et c'est pour ça que le poste a été rapidement supprimé. Tout ce qu'on sait, c'est que nos militants n'ont pas participé à ce collège.
Collège en rien justifié, mais intervenu, écrit l'UNEF dans un communiqué, car des étudiants auraient été exclus de cours pour avoir marqué leur désapprobation avec l'un des deux enseignants, lequel réfute tout propos islamophobe.
Et puis, Maxime Debs, c'est une affaire et un malaise qui arrive en plein débat sur l'islamo-gauchisme au sein des universités.
Ouais, et là aussi, l'UNEF veut éteindre l'incendie.
Et ça, c'est le résultat quand même d'un climat très nauséabond en ce moment dans nos établissements. Dès qu'on dit quelque chose, eh ben, on est traqué et donc on est exclu de cours apparemment. Et donc, on a des enseignants qui sont mis sur des listes, qui disent, ben, ça, c'est des enseignants qui seraient islamo-gauchistes, d'un côté. On a des sujets de thèse qui sont moqués à la télé, etc., etc. Et donc, ce climat-là, cette chasse aux sorcières qui a quand même été instaurée par la ministre de l'Enseignement supérieur, ça doit cesser.
La ministre en question, Frédéric Vidal, qui rappelle ce soir que les menaces, les injures et les pressions n'ont pas leur place dans l'enseignement supérieur.
Maxime Debs, merci. Et puis concernant l'assassinat de Samuel Paty, la collégienne qui avait accusé l'enseignant d'islamophobie en octobre dernier a reconnu aujourd'hui avoir menti. C'est ce qu'affirme son avocat, maître Beko Taboula. Une promesse, plus d'injections après un week-end destiné à accélérer la campagne de vaccination. Olivier Véran s'engage à poursuivre ce coup d'accélération et les injections de masse qui se sont déroulées tout le week-end en France à chaque fois qu'un vaccin est disponible sur notre territoire, a déclaré le ministre de la Santé. Il faudra qu'un Français soit vacciné, que ce soit le lundi ou que ce soit le dimanche. Et ce soir, selon les données publiées par Santé publique France, plus de 3 700 000 personnes ont reçu une première dose de vaccin et parmi elles, près de 2 millions de personnes, 1 920 000 précisément, ont reçu une seconde dose. Le taux de vaccination de la population française est ce soir de 5,6%. Mais dans le même temps, l'épidémie continue de se propager avec la menace des variants toujours présentes. Plusieurs régions ou départements, le Nord, le Pas-de-Calais, les Alpes-Maritimes sont confinés le week-end. 23 autres départements sont en sursis ou sous surveillance renforcée. Et les autorités rappellent l'importance de respecter les mesures sanitaires. À Paris, aujourd'hui comme hier sur les quais de Seine, des Parisiens ont voulu profiter du soleil et des températures douces. La police a fait évacuer les quais de Seine hier. Aujourd'hui, nouvelle opération, mais pas d'évacuation. Reportage Benjamin.
Alors quand on se rapproche du pont Alexandre III, là ça se densifie. Il y a des petits groupes un peu partout. Les distances nécessaires sont respectées, mais de peu. Il y a besoin de sortir.
Prendre l'air, ouais. Pour sortir notre 15 mètres carrés.
Quand vous êtes venu ici, vous êtes dit il faut faire attention à quoi ?
Éviter la foule et garder son masque.
Il y a du monde.
On va trouver un coin, ouais. Tranquille.
Il y a une bonne cinquantaine de personnes là en train de danser.
Il ah. Faut pas que ça attire la police par dessus.
Bon. C'est quoi comme danse ? C'est salsa ?
Ça, c'est de la bachata.
On danse entre amis, ça libère. On a respecté beaucoup de règles. Il faut libérer un peu parce que il y a des gens, pendant un an, ils ont rencontré personne.
Bon, là, je vois des gens qui ont le masque sur le menton. J'ai vu des gens qui s'embrassaient. Bon, les gestes barrières, ils sont moyennement respectés.
Les gens qui s'embrassent, c'est des gens qui se connaissent, qui se fréquentent.
Vous voulez envoyer quel message, peut-être ? S'il y a un message, hein, je ne sais pas, mais...
C'est juste là, le message, regardez. Ah, vous voyez, c'est la statue de la liberté.
Oui, au pied du pont de Grenelle.
Voilà.
Vous pliez bagages pour le couvre-feu, en tout cas.
Oui, on respecte les règles.
Pas toutes, mais celles-là, oui.
Oui, oui.
Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir.
Reportage de Benjamin Illy sur les quais de Seine et puis concernant la progression de la contamination et de l'épidémie de coronavirus, la France a enregistré aujourd'hui 21 825 nouveaux cas de contamination contre 23 306 hier. 130 décès liés au virus ces dernières 24 heures contre 170 samedi. Et dans ce contexte de crise sanitaire, Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, s'est rendue hier soir au théâtre de l'Odéon, théâtre occupé depuis jeudi par des comédiens et des acteurs de la culture. Il réclame la réouverture des lieux culturels et des aides financières. La visite de Roselyne Bachelot n'a, pour ainsi dire, pas convaincu les occupants de l'Odéon. Ils ont manifesté cet après-midi. Raphaël Thomas.
Bienvenue à l'Agora populaire du théâtre de l'Odéon.
Sur la place, quelques centaines de personnes assistent à l'Assemblée Générale. L'événement est animé depuis les fenêtres du théâtre de l'Odéon par la quarantaine de militants qui occupent les lieux depuis jeudi. Hier, ils ont reçu la visite de la ministre de la Culture. Une visite courtoise, racontent les résidents, mais aucune annonce pour le secteur. Denis Gravouille, secrétaire général CGT Spectacle.
On ne veut pas quelqu'un qui souffre avec nous. On veut quelqu'un qui trouve des solutions à toutes les questions qu'on a posées. Ce sont des déclarations d'amour, il n'y a pas de preuves.
Des preuves, Marion, musicienne, elle aussi en souhaite. La crise sanitaire a mis fin à sa tournée prévue cette année.
C'est une baisse de revenus considérable. Actuellement, j'ai 1500 euros et j'ai 800 euros de loyer. Je suis étudiante en parallèle, je suis en train de terminer mes études, donc du coup, j'ai des frais scolaires.
Si elle tient bon, c'est grâce à la prolongation de ses droits en tant qu'intermittente. Une année blanche accordée par le gouvernement en 2020. Renouveler cette mesure, c'est l'une des revendications. Mais pour le responsable syndical, il faut encore aller plus loin.
On a demandé à la ministre en novembre, une somme qui se montait à 115 millions d'euros. Il y a eu plus de 40 milliards qui ont été mis sur l'activité partielle. Il ne faut pas autant pour le secteur.
Les représentants syndicaux du secteur doivent être reçus le 22 mars par le gouvernement.
Raphaël Thomas, on apprend ce soir la mort d'Olivier Dassault dans un accident d'hélicoptère en Normandie. L'homme d'affaires et homme politique, député de l'Oise et petit-fils de Marcel Dassault, était âgé de 60 ans. Le pilote d'hélicoptère serait mort dans l'accident. Nous vous donnerons plus d'informations dans nos éditions de la soirée. En bref, à l'étranger, la Suisse adopte à une courte majorité l'initiative anti-burqa. Le texte initialement proposé par le parti populiste de droite UDC a été soutenu par des féministes et une partie des électeurs de la gauche laïque. Il a obtenu 51,21% des voix. La visite du pape en Irak. Le pape a célébré aujourd'hui sa plus grande messe à Erbil, au Kurdistan irakien, dans un stade et devant des milliers de fidèles. L'Irak, a dit le pape François, restera toujours avec moi et dans mon cœur. Bruce de Galzin est notre envoyé spécial en Irak.
Il a enfin pu sortir en papa mobile, François, à l'intérieur du stade. Et sa joie s'est vue sur son visage et sur celle des 10 000 personnes au moins qui l'ont accueilli en chantant et criant. Comme le matin même, avec les chrétiens et musulmans dans les ruines de Mossoul et l'église reconstruite de Karakoch. Dans son homélie, le pape a exprimé une dernière fois sa compassion pour ce peuple.
Oui, en Irak.
Ici, en Irak, combien de vos frères et sœurs, amis et concitoyens, portent les blessures de la guerre et de la violence, des blessures visibles et invisibles?
En Irak et au-delà, plusieurs fois, le pape a évoqué la Syrie, toujours en guerre, que Riyama, 18 ans, a quitté il y a 6 ans.
Sa venue ici est très importante, très symbolique. Je suis chrétienne pratiquante. Je suis syrienne d'Alep. Je viens prier aussi pour la Syrie et pour son peuple.
Et il est temps de reconstruire et de recommencer, a dit le pape, qui est venu répondre à la violence par le dialogue et la paix. Le père Georges est curé à Karakoch.
Vraiment, c'est une joie très, très forte. On a vu pendant ces dernières journées beaucoup d'émotions, une atmosphère très bizarre, mais très positive.
Et à la veille de la journée des droits des femmes, François a lancé un appel pour les respecter et les protéger. À Erbil, Bruce de Galzin, France Inter.
Un procès hors normes s'ouvre demain à Minneapolis, aux États-Unis. Le procès de Derek Chauvin, ce policier qui a tué George Floyd, un homme noir qu'il venait d'arrêter en maintenant son genou sur son cou pendant 8 minutes. La vidéo de cette agonie avait suscité une vague de colère et d'émeute, un drame à l'écho mondial. Ce soir, à la veille du procès, plusieurs rassemblements ont lieu. Claude Guibal à Minneapolis.
Des manifestations, des rassemblements, la colère, l'émotion toujours là. L'agonie filmée de George Floyd, asphyxié par Derek Chauvin, un policier blanc, pendant 8 minutes, a eu l'effet d'un électrochoc aux États-Unis, mettant un visage, un nom, des images sur ces statistiques, ces accusations qui pèsent depuis tant d'années sur la police américaine. Violence disproportionnée, racisme rampant. Derek Chauvin avait déjà fait l'objet de 18 dépôts de plainte. Son nom apparaît dans 4 autres cas de mort lors d'opérations de police. Jamais il n'avait fait l'objet de procédures disciplinaires. Derek Chauvin risque 40 ans de prison. Il est accusé de meurtre au second degré. Les 3 autres policiers qui l'accompagnaient et l'ont laissé faire seront, eux, jugés à part en août. Le procès va d'abord s'ouvrir sur la sélection des jurés, qui devrait durer plusieurs semaines. Ils seront désignés par des nombres. Leur visage ne sera pas montré, tant le procès fait l'objet de procédures de haute sécurité. À Minneapolis, Hélène Langlois, Claude Guibal, France Inter.
Toujours aux États-Unis, jour J pour Meghan et Harry. L'interview annoncée comme choc et qui fait, dit-on, trembler la famille royale britannique sera diffusée ce soir sur la chaîne américaine CBS. Entretien mené par la célèbre Oprah Winfrey. Meghan et Harry contre la famille royale. Une affaire qui vaut de l'or, si l'on en croit les montants mirobolants qui entourent cette interview tant attendue. Louis Cloury à New York.
Pour la chaîne américaine CBS, la facture de cette interview serait comprise entre 7 et 9 millions de dollars. Selon le Wall Street Journal qui révèle cette information, le prix des publicités est à l'avenant, 325 000 dollars pour 30 secondes de spot, soit 2 fois le tarif habituel. Et des publicités, il devrait y en avoir beaucoup lors de cet entretien royal de 2 heures, diffusion programmée à 20 heures sur la côte Est, l'une des soirées les plus importantes de la semaine en termes d'audience. Oprah Winfrey, par ailleurs, a conservé les droits de diffusion à l'international, en particulier au Royaume-Uni où les téléspectateurs devront patienter jusqu'à demain soir. Reste à savoir si cela en vaudra la peine. Les extraits diffusés depuis une semaine montrent des Sussex offensifs vis-à-vis de la maison royale britannique, mais cela ne dit pas jusqu'où ira le couple en retrait depuis plus d'un an. Le prince Harry et Meghan Markle en tout cas n'ont reçu aucune compensation financière, assure une porte-parole pour donner cette interview. New York, Loïc Loury, France Inter.
Voilà l'interview royale ce soir sur CBS entre 7 et 9 millions de dollars. 19h14 sur France Inter, la page sport de cette édition. Bonsoir Guillaume Batin.
Bonsoir Frédéric.
Et après des jours de polémique sur le respect du protocole sanitaire, le tournoi Destination redémarre pour le 15 de France.
Les Bleus avaient rendez-vous aujourd'hui au centre d'entraînement de Marcoussis pour préparer le crunch face à l'Angleterre samedi prochain, avec le retour dans le groupe de Romain Tamak et Virimi Vakatawa. Après 16 cas de Covid et un France-Écosse reporté sur fond de polémique et de critiques, les retrouvailles s'annoncent forcément particulières entre les joueurs et Fabien Galthié, leur sélectionneur. Fanny Lechevestrier.
Un sélectionneur, Fabien Galthié, que l'on n'a plus vu depuis son test positif le 16 février dernier. Pour avoir de ses nouvelles, il faut demander à Bernard Laporte, le président de la fédération.
Fabien, au départ, il a été comme tout le monde, hein, secoué, il faut dire les choses comme elles sont. Après, c'est un grand garçon, on a longuement parlé. Je pense que ça va mieux. Encore une fois, je ne l'ai pas eu depuis 3-4 jours, mais je pense que ça va mieux.
Et en perfectionniste, Fabien Galthié a forcément déjà réfléchi à ce qu'il allait dire à ses joueurs pour renouer le fil de l'histoire. Marie Aliciae, la consultante rugby de France Inter, attend un mea culpa.
Complètement. Certainement qu'il va y avoir explication pour évacuer tout ce que les joueurs ont à dire s'ils peuvent le dire. Et Galthié, qui là aura sa part de responsabilité et justement apprendre à dire bon, bah voilà ce qui s'est passé, je l'ai fait, je pensais que j'avais le droit ou pas. Il inventera ou il dira ce qu'il a envie de dire, mais je veux dire au moins ça évacuera, ça va être fait d'entrée. Après, ils vont rebasculer sur le rugby.
Avec pour l'ancienne internationale un objectif commun, aller chercher un grand chelem qui va aider les joueurs à tourner la page.
Beaucoup étaient sur le côté c'est nul, c'est con, mais voilà, rugbystiquement parlant, il faut qu'on revienne très vite. Et je pense pas que l'énervement, la déception passe au-dessus malgré tout de cette envie-là, quoi. Pour les entendre en parler, eux, ce qu'ils veulent, c'est d'être sur le terrain, de gagner.
Ça tombe bien, Angleterre-France arrive dans seulement 6 jours.
Et d'après un sondage Odoxa, les Français n'en veulent pas aux joueurs du 15 de France d'être allés manger des gaufres dans les rues de Rome. Ils ont toujours la cote à 83% d'opinion positive. Ça monte même à 85%, rien que pour le sélectionneur Fabien Galthié.
Du cyclisme, Guillaume, avec le Paris-Nice et la première étape remportée par Sam Bennett.
L'Irlandais s'est imposé au sprint sur la ligne d'arrivée à Saint-Cyr-l'École, juste devant Arnaud Démare et devant les yeux de quelques spectateurs au bord des routes qui ont aussi assisté à de nombreuses chutes aujourd'hui. Une nervosité qui n'étonne plus les coureurs. Le Covid est passé par là, comme l'explique le leader de la Cofidis, Guillaume Martin.
C'est vrai que je pense que le niveau est effectivement de plus en plus élevé. Moi, ça fait pas non plus très longtemps que je suis pro, mais j'ai l'impression quand même que déjà les niveaux se sont resserrés. C'est plus dur aujourd'hui de faire sa place justement et d'aller chercher des résultats, mais surtout depuis ce Covid. En fait, il y a quand même moins de courses, donc ça veut dire que sur chaque course, il y a plus de niveaux, tous les meilleurs sont là et tout le monde a un peu le couteau entre les dents, donc ça explique qu'il y a plus de niveaux. Ça me convient très bien et je pense que ça convient aussi aux spectateurs. C'est vrai, quand même des courses spectaculaires et moi en tant que coureur, au final je préfère quand il se passe des choses, mouvement, quand il y a même des bordures, plutôt que simplement rester attendre le sprint de manière un peu ennuyeuse.
Et ça roulera très vite encore demain avec sans doute une arrivée au sprint avec la deuxième étape qui mènera le peloton à Amilly dans le Loiret.
Et puis Guillaume, la star du tennis mondial revient enfin sur les cours.
Roger Federer, l'homme aux 20 tournois du Grand Chelem, aux 130 millions de dollars de gains hors contrat publicitaire et de retour. Effectivement, il disputera demain son premier match au tournoi de Doha au Qatar après 13 mois d'absence, 2 opérations au genou. Il aura 40 ans l'été prochain, mais la passion est encore trop forte pour penser à s'arrêter malgré un contexte sanitaire qui rend les choses encore plus compliquées. Roger Federer.
Après ce tournoi, je sais que je vais devoir m'entraîner très dur. Je suis en pleine reconstruction pour être plus fort, plus rapide, plus précis. J'aimerais être à 100% pour le prochain tournoi de Wimbledon. C'est là que ma saison pourra vraiment commencer. Mais d'ici là, je vais laisser les choses venir, voir comment je me sens. Ces dernières semaines, déjà, j'ai pu retrouver des sensations. Mais je vais voir ça, jour après jour. Je sais juste que l'histoire n'est pas terminée. Je ne sais pas comment expliquer en fait mon envie de continuer, mais j'ai envie d'être sur la route malgré les quarantaines, les bulles à respecter pendant les tournois, le port du masque, la difficulté de voyager. Je crois que c'est de jouer en fait avec les meilleurs joueurs du monde et de gagner encore des tournois qui me manquent le plus.
Roger Federer qui fait son grand retour demain à Doha au Qatar. Il affrontera au deuxième tour soit le Britannique Daniel Evans, soit le Français Jérémy Chardy.
Et on va s'attarder maintenant sur les marins du Vendée Globe. Après 4 mois de course, la 9e édition a pris fin avec l'arrivée du navigateur finlandais Harri Uusula vendredi. On sait que cette course à la voile autour du monde en solitaire sans escale et sans assistance distance est éprouvante pour le matériel et les bateaux, mais c'est une course qui marque le corps des marins. 25 concurrents ont bouclé ce tour du monde. Comment gèrent-ils cet après-Vendée? Comment se sont-ils remis physiquement d'une telle aventure? Jérôme Val est retourné au Sable d'Olonne à la rencontre de plusieurs concurrents. C'est le long format de ce soir.
Dans son atelier des Sables d'Olonne, à quelques encablures du ponton d'arrivée du Vendée Globe, Arnaud Boissière veille sur son monocoque au repos. Le skipper, arrivé 15e le 11 février, le reconnaît. C'est un peu le bazar en ce moment dans sa vie d'après Tour du Monde.
Je vais même attraper un peu la crève, tu vois.
Même si c'était le 4e Vendée Globe d'Arnaud Boissière, le retour à terre n'est jamais anodin.
En moyenne, moi je dis ouais, on met 3 semaines à s'en remettre. Là, j'ai quand même l'impression, moi perso, que je suis pas remis physiquement. Je fais un petit peu de vélo d'appartement parce que j'ai vraiment les jambes toutes molles. J'ai bien maigri, mais bon, voilà, comme tout le monde. Mais j'ai pas de canne, comme on dit. Si bien qu'hier, j'étais dans une propriété viticole dans le Bordelais. On a marché un peu et au bout d'un quart d'heure, je m'essoufflais. Donc forcément, ils sont moqués de moi. Je pense qu'encore une petite semaine et je serai d'aplomb.
Pendant plus de 3 mois, ces marins n'ont pas marché. Impossible sur un bateau aussi instable, d'où la fonte des muscles des jambes. Un phénomène bien connu du médecin du Vendée Globe, Jean-Yves Chauve.
La course large, je vais être un peu provocateur en disant ça, mais c'est une course de sédentaire. Vous voyez, un bateau, c'est une surface très faible. Hein, ça fait 18 mètres de long, donc en aller-retour, ça fait à peine 40 mètres. On marche très peu sur un bateau, donc on a une fonte musculaire qui est classique. La récupération n'est pas toujours simple et on a parfois justement des douleurs ou par exemple des lombalgies, des douleurs de dos qui apparaissent suite à la course. Ça arrive aussi, oui.
Mais revenir à terre, c'est aussi changer d'environnement. Il faut par exemple retrouver le sommeil et ce n'est pas naturel pour Arnaud Boissière.
Des fois, je me réveille la nuit, quoi, en me disant le lit bouge pas, c'est bizarre, le lit n'est pas mouillé.
Retrouver aussi les réflexes de terrien après avoir vécu pratiquement 100 jours seul au milieu des océans, comme l'a fait Clément Giraud, arrivé à la mi-février.
De passer à un mode où on est très en extérieur, tout le temps extérieur, à un mode on est tout le temps en intérieur, là, et ça fait bizarre. Les premiers jours, j'ai eu des besoins de sortir, quoi, de sortir de la maison et de regarder les étoiles, avoir froid, c'est plus ça. Ouais.
Hors du temps et hors du monde, pendant la course, il faut aussi renouer avec la réalité passée. Évident là encore. Benjamin Dutreux, l'une des belles surprises de ce Vendée Globe avec sa 9e place, a repris le travail dans son chantier naval lundi dernier.
On est passé par des émotions où on se retrouvait à 4 pattes dans le fond du bateau, presque à pleurer, où on se disait qu'on n'allait pas y arriver, à des émotions où on est en train de danser, chanter sur le bateau parce qu'on a réussi à réparer tel truc, où on a gagné une place. C'est vrai que quand on reprend la vie active, on ne retrouvera jamais des émotions qui sont aussi basses et aussi hautes. Forcément, ça crée un vide un peu émotionnel quand on reprend la vie active.
Il y a une chose en revanche dont les marins se seraient bien passés pour leur retour sur Terre, le masque auquel, évidemment, ils n'échappent pas.
Jérôme Val pour le long format de ce soir. 2 informations encore, Guillaume Batin.
Et 2 médailles d'or au championnat d'Europe d'athlétisme en salle à Toruń en Pologne. La première pour Willem Belossian dans le 60 mètres et en 7 secondes 42 pour 1 millième d'avance. Et puis la 2e médaille d'or pour Kevin Mayer, beaucoup plus connu dans l'heptathlon, pour bien démarrer sa saison à 4 mois des Jeux Olympiques de Tokyo.
Guillaume Batin, merci.
Le journal de 19h. Frédéric Barrère.
À suivre la semaine prochaine et avec notre agenda des temps forts de l'actualité de la semaine qui vient, avec d'abord demain lundi la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Plusieurs associations et militantes appellent à une grève féministe et à des manifestations dans toute la France pour dénoncer les injustices subies par les femmes, accentuées par la crise sanitaire. Autre rendez-vous à noter demain, l'examen du projet de loi climat et résilience. Et la bataille s'engage en commission à l'Assemblée. Plus de 5000 amendements ont été déposé et sur le front de la vaccination. L'actualité la semaine prochaine, c'est la décision jeudi de l'Agence européenne du médicament sur le vaccin Johnson & Johnson. Le gouvernement français a déjà annoncé que ce vaccin arrivera en France d'ici un mois. Il s'agira du 4e vaccin disponible après Pfizer, Moderna et AstraZeneca, Daniel Messager.
Ce vaccin est à adénovirus ou à vecteur viral, c'est-à-dire qu'il se sert d'un autre virus dans lequel des informations génétiques du SARS-CoV-2 ont été injectées. L'organisme peut ainsi le reconnaître et se défendre. Le principe est identique à celui de AstraZeneca. Sa différence et avantage, c'est qu'il ne nécessite qu'une seule dose, sauf s'il était démontré qu'une 2e dose prolonge sa durée de protection. Une étude est en cours. Si ce vaccin présente de moins bons résultats sur les formes symptomatiques de la maladie, une efficacité de 66%, celle-ci grimpe en revanche à 85% lorsqu'il s'agit de formes sévères, et ce sont ces formes qui préoccupent puisqu'elles sont responsables des hospitalisations. De plus, il se conserve à des températures de réfrigérateur classique entre 2 et 8 degrés, ce qui le rend plus facilement utilisable. D'après les commandes effectuées par l'Union européenne, la France devrait en recevoir 15 millions de doses d'ici fin juin.
Jeudi encore, le tribunal administratif de Lyon doit se prononcer sur les recours en référé des parents d'élèves contre la décision du maire de Lyon d'imposer des menus sans viande dans les cantines scolaires. Et puis, une triste date anniversaire, le 10e anniversaire jeudi de la catastrophe nucléaire de Fukushima. Signalé vendredi sur l'agenda, les Césars 46e cérémonie pour faire oublier la catastrophique édition 2020 avec les polémiques sur le sexisme et l'entre-soi. Et on terminera la semaine avec l'élection samedi du président de la Fédération française de football. Noël Le Graët, 79 ans, brigue un troisième mandat. Je reviens sur l'information que je vous donnais en début de journal et l'annonce de la mort d'Olivier Dassault. La réaction d'Emmanuel Macron, le président explique qu'Olivier Dassault aimait la France. Olivier Dassault est mort aujourd'hui dans un crash d'hélicoptère à l'âge de 69 ans. Capitaine d'industrie, député, élu local, commandant de réserve de l'armée de l'air. Sa vie durant, ne cessa de servir notre pays. Son décès brutal est une grande perte, écrit le chef de l'État. On va maintenant vous révéler des secrets inviolables, le secret de la confession. C'est un témoignage très rare que nous propose Sandrine Houdin, celui d'un prêtre, le père Gérard. Il témoigne dans un ouvrage inédit qui paraît cette semaine, « Je vous pardonne tous vos péchés ». Il a fallu 3 ans à l'auteur pour essayer de convaincre des hommes d'église à dévoiler les secrets de la confession. 40 prêtres seulement, dont le père Gérard, ont accepté. En cette période de carême avant Pâques, le nombre de confessions augmente. Les paroissiens veulent se délester de leur péché, le plus souvent concernant le sexe, pour pouvoir communier à Pâques. Bref, de confessionnal avec le père Gérard, qui n'en veut pas aux autres prêtres d'avoir refusé de témoigner. Le père Gérard avec Sandrine Houdin.
Pourquoi ils ont refusé? Parce qu'ils ont très peur du secret. Le secret est tellement sacré qu'on a toujours peur de l'enfreindre. C'est un grand reproche d'ailleurs que m'ont fait ma famille et mes amis quand je suis devenu prêtre. Ils ont dit, mais tu racontes plus rien. Ah, secret de confession, nanana.
Sauf que là, vous faites l'inverse.
Oui. En marchant sur des œufs, en faisant en sorte que tout le monde se reconnaisse et personne en particulier. Je dis un certain nombre de constantes qui interviennent en confession. Quand on est en confiance, comme nous sommes en confiance là, confiance totale.
Alors, les confessions aujourd'hui, ça va de quoi à quoi?
Ça va du plus dérisoire. Alors on se dit, tout ça pour ça. C'est plutôt pitoyable, c'est j'ai brûlé le rôti, j'ai raté un plat. Au secours. Alors, les histoires de cul, elles sont plutôt plaisantes. Mais la réalité, c'est pas celle-là.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Le pire, c'est l'assassin en liberté qui dit « j'ai tué quelqu'un », voire « j'ai tué plusieurs personnes ». L'assassin en liberté qui vient demander le pardon.
Qu'est-ce que vous ressentez alors? Moi, je parle au prêtre et à l'homme.
C'est super dur parce que c'est un secret qu'on est seul à porter. On a soit la rage, soit des pleurs intérieurs, et puis on n'a pas de solution à apporter. On ne peut pas lui donner le pardon quand tous les proches continuent à souffrir la mort et qu'ils ne peuvent pas faire leur deuil tant que l'assassin n'est pas retrouvé.
Qu'est-ce que vous ressentez?
On prend sur soi parce qu'on n'écoute pas ses propres sentiments. C'est la règle de base. C'est pour ça qu'on est prêtre. Sinon, on ne s'en sort pas.
Oui, mais c'est un déchirement entre la justice de Dieu, la justice des hommes, se dire, mais je fais quoi?
On n'est ni flic, ni magistrat, ni juge. On est là pour le réveiller.
Qu'il aille lui-même
se dénoncer, ou de toute façon qu'il change, merde, qu'il arrête ses conneries, qu'il arrête sa folie, qu'il se réveille, qu'il demande de l'aide. Et chaque fois, nous lui disons, qui est-ce qui peut vous aider? Est-ce que vous pensez que vous pouvez en répondre devant la justice des hommes?
Qu'est-ce que vous répondez à des personnes qui pourraient dire, finalement, vous êtes complice? Honte à l'Église!
J'essaierai de répondre poliment.
C'est mon actu avec le père Gérard, de Gérard par Sandrine Houdin. Je vous pardonne tous vos péchés de Vincent Montgaillard. Le livre paraît ce jeudi 11 mars aux éditions de L'Opportun. Au générique de cette édition, Julien Dumont et Louis Audebert en régie qui m'ont aidé à préparer ce journal. Avec Lionel Thompson à la rédaction en chef, assisté de Swat Bellani et Brice Garcia. Merci à l'équipe, merci à vous d'avoir écouté ce journal. Le temps pour demain.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
Jean-Michel Golinski.
La nuit prochaine, les gelées de 0 à moins 4 degrés seront encore couramment observées sur toute la moitié nord du pays, alors que dans la partie sud, l'ambiance sera plus douce. Idem pour demain après-midi, où les maximales vont se limiter à 9 degrés en moyenne du nord de la Loire à la Belgique et dans le nord-est, contre 13 dans le quart sud-ouest et à bon 15 degrés sur les régions méditerranéennes. Comme ces derniers jours, le temps sera très différent entre la moitié nord du pays et les régions du sud, avec une majorité de ciel bleu entre la Manche, la Vendée et le nord de la Bourgogne ainsi que de la Franche-Comté, avec éventuellement le matin des nuages un peu plus nombreux près de la Manche, et un ciel plus mitigé sur les régions méridionales ponctuées d'averses marquées au voisinage des Pyrénées et sur la Corse du sud, avec de la neige en moyenne montagne sur tous les massifs, du golfe du Lion à la Provence, grâce au Mistral et à la Tramontane modéré, le ciel sera souvent sec et dégagé.